Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Silence en joueur, Juan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de Silence on joue.
Ce qui est bien. Et il y a de quoi dire.
On va aussi parler de Wargames ou hashtag Wargames, la nouvelle proposition de Sam Barlow. On parlera de Far Cry 5, on parlera de Florence et on parlera de Minute. Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir. Ça me fait bizarre. J'ai un casque sur les oreilles, je parle dans un micro. C'est tellement étrange, c'est tellement bien. J'ai le plaisir d'accueillir deux de mes chroniqueurs favoris, Patrick Elio. Bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Et Corentin Benoît Gonin des Croissants. Bonjour.
Bonjour
Corentin.
Erwan.
On va commencer, on fera le com des com tout à l'heure, on commencera à parler des news. On va un peu commencer par parler rapidement de Silence on joue. Comme certains le savent sans doute déjà, et peut-être d'autres vont le découvrir avec cette émission, mais No Life, qui nous accueillait depuis déjà beaucoup de temps, depuis qu'on était parti au format vidéo, on continuait ce format audio, mais on avait une chaîne YouTube, et puis on était diffusé chez eux sur la chaîne No Life. Donc No Life a annoncé le 1er avril, et ce n'était pas une blague, a annoncé la fin, qu'ils allaient cesser d'émettre le 8 avril, donc ce dimanche. Pour nous, on enregistre le jeudi juste avant, et donc nous, ça nous a un peu pris de court, ça leur a pris de court un petit peu. Comme tu le dis, c'est vraiment très triste, No Life. Donc ils arrivaient presque à leur 11e année. C'est un projet qui a eu qui a su toujours garder une intégrité absolue, rien que pour ça, j'ai une admiration sans borne pour le travail de toute l'équipe. Notamment Seb et Alex.
Quand bien même ils pensaient tenir 6 mois, ils ont tenu 11 ans, c'est formidable déjà.
Non, mais c'est exceptionnel.
Ils ont des passionnés, en discutant avec eux, on voyait que c'était des gens qui avaient vraiment la passion du jeu vidéo, et ça, c'est des choses qui ne trompent pas. On le ressent vraiment.
Ouais, la passion, ne pas que du jeu vidéo, la
et
passion de tout ce qu'ils faisaient,
culture,
la passion aussi pour proposer une chaîne de télévision différente. Ça a fonctionné. Ils ont eu des bonnes audiences. Ils ont eu à quelques moments l'espoir de s'en sortir par le haut. Souvent, ils ont toujours essayé de le faire en demandant le soutien de leurs téléspectateurs qui ont répondu présent à de nombreuses reprises. Mais au bout d'un moment, on peut pas durer indéfiniment si on manque un peu de ce carburant qu'est le pognon. C'est tout. C'est comme ça. Et ils ont été obligés d'arrêter, moi ça me rend.
Mais c'est triste, c'est une voix qui s'éteint, quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, c'est quand même c'est une voix qui s'éteint. C'était un média qu'on était habitué ou pas à suivre, mais qui va se taire. Et ça fait toujours de la peine.
C'est bateau, mais j'ai beaucoup lu cette formule média d'une génération, mais c'est vrai quoi. Surtout moi, ça me concerne en premier chef, parce que quand No Life a démarré, en fait, je démarrais mes études. C'était pour moi un moyen de me raccrocher à ce que je voulais faire. C'est en l'occurrence, je voulais être vraiment très fort, monter à la capitale. Et pour moi, No Life faisait partie un petit peu de waouh, à Paris, ils font des trucs et tout, et ça a l'air trop bien. Ils se filment, et ils se font plaisir, et c'est marrant. Et du coup, je regardais vraiment No Life comme une fenêtre sur cette folie créative. Créatrice et qui avait l'air comme ça plaisante je suis triste quoi. C'est vraiment triste.
Alors pour revenir à nous, à nos affaires, Silence on joue, du coup c'est vrai qu'on a été un peu pris de court par cette annonce, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'émission les deux dernières semaines, et on reprend très vite quand même, parce que donc là on est entre l'annonce de la fin de No Life et la fin de No Life effective. Alors ça me fait mal à chaque fois que je le dis, mais c'est comme ça. Et donc on en reprend très vite, grâce à qui ? Grâce aux croissants, à Stan et Corentin. Les croissants, on l'a déjà décrit, on a déjà expliqué ce que c'était. C'est une matinale radio personnalisable par abonnement. Qu'ils ont lancé un projet un peu foufou quand même, et ils ont donc des locaux, ils ont un lieu lieu pour enregistrer. Et ils nous ont gentiment, très gentiment proposé d'accueillir Silence on joue pour la fin de la saison. Voilà, il nous fallait une solution rapide dans l'idéal. J'étais même pas sûr de pouvoir la trouver, mais ils nous ont proposé ça d'eux-mêmes. Dès que Corentin a appris la nouvelle, il a dit bon, attends, j'ai demandé à Stan, on va voir si on peut. En plus, on achète un troisième micro, donc ça va pouvoir le faire. Et j'étais là, waouh, déjà, c'est j'ai vraiment apprécié la proposition à sa juste valeur, parce que je pense que c'est une vraie proposition généreuse de leur part. Et donc voilà, on peut reprendre aussi vite les programmes, et on va reprendre très vite. Je vais arrêter de parler de tout sauf de jeux vidéo, parce qu'on a quand même un timing
à respecter. Le contexte,
c'est le lien avec ta communauté, Erwan, c'est important.
Exactement. voilà, dernier point, voilà, la chaîne YouTube va forcément être beaucoup moins active. Alors on réfléchit, peut-être qu'on va mettre le podcast audio sur YouTube, on sait jamais. Voilà, pour le reste, on vous retrouve normalement toutes les semaines, ou presque toutes les semaines maintenant, sur iTunes, sur libération.fr, voilà, et sur les canaux podcast classique. On va commencer cette émission. On va commencer avec les news, et avec toi, Patrick. De quoi tu vas nous parler?
Moi, je vais vous parler d'un phénomène qui me fascine toujours dans les cycles du jeu vidéo, parce que le jeu vidéo fonctionne par cycle. Et moi, c'est celui qui se met en place avant les annonces de consoles. C'est toute cette période de rumeurs, de bruissements, de fantasmes aussi qui naissent autour des prochains projets qui commencent à se dessiner via des fuites, des petites infos qui sortent plus ou moins volontairement, on sait jamais trop, tout ça c'est un petit peu flou. Mais en tout cas, ce que j'adore, c'est que ça, voilà, l'imagination galope, on se fait un petit peu des films sur qu'est-ce que va apporter la nouvelle génération de machines. Et puis il y a les noms de code des consoles aussi qui arrivent en général, et ça envoie du lourd, c'est toujours assez marquant. On essaie toujours d'impressionner les adversaires avec des noms de code, les Scorpio, c'est
la révolution à
l'époque. Oui, mais c'était génial, la révolution,
j'adorais.
Mais c'était, en plus, c'était vraiment une révolution. Mais non, ouais, je trouve ça fascinant, parce que ça anticipe, et puis vraiment, en tant que spectateur, que chroniqueur du jeu vidéo, je trouve que c'est un moment où vraiment c'est passionnant, parce que vraiment on imagine ce qui va arriver. Là, les dernières rumeurs, c'est pas les moindres, c'est quand même important, c'est celles qui concernent la PlayStation 5. Alors évidemment, on connaît le positionnement leader de Sony sur cette génération. Je crois qu'on est à 80 millions de PS4, donc évidemment c'est le poids lourd du jeu vidéo aujourd'hui. Donc, au moindre petit bruissement d'orteil de Sony sur une prochaine génération, évidemment, l'imagination s'enflamme. On est vraiment en attente de ce qui va se dire, parce qu'on sait qu'ils ont aussi, je pense qu'ils vont vouloir reprendre la main assez vite quand même par rapport à Microsoft, qui aujourd'hui, avec la Scorpio, enfin non, c'est plus la Scorpio, c'est la Xbox One X, pardon, à la machine la plus puissante en soi. Donc, je pense qu'ils vont avoir aussi envie de répondre assez rapidement. Donc voilà, les dernières rumeurs donc, sur la PlayStation 5. Alors, j'ai noté, c'est des chiffres, des choses qui commencent à fuiter. Alors, j'ai plus le nom du site, mais il y a un site a priori bien informé qui a lancé ces informations et qui révèle, et ça on présumait, que les kits de développement commencent à être envoyés. C'est-à-dire que ça commencerait à bouger vers les développeurs, en tout cas les gros développeurs qui commencent vraiment à travailler sur les prochains projets. Ce qui se dirait donc, à noter, à prendre avec des pincettes évidemment, c'est de la rumeur, mais qui peut aussi nous aiguiller sur ce qui peut arriver dans les mois ou les annonces qui peuvent se préparer. On parle d'une rétrocompatibilité possible PS4, PS4 Pro, ce qui serait une bonne chose. Moi, je pense qu'il faut plus de rupture comme on a pu l'avoir. Ça serait très bien que la prochaine génération permettre de garder ses jeux et de continuer à jouer. Alors, on parle d'un SoC AMD, d'un processeur d'architecture Zen, chipset graphique Navi, qui donc serait la suite du Vega actuel. Je vous passe tous les détails.
Oui, parce que là, ça ne nous dit rien.
C'est pas intéressant. Non, les points que j'ai notés dans cette info, encore une fois, à prendre avec des pincettes, je le redis, c'est vraiment important. Attention, on est vraiment sur de la rumeur, mais donc, Sony aurait travaillé avec AMD, beaucoup avec eux, sur la conception de la machine, et aurait a priori bien pensé à la VR, aurait demandé vraiment à prendre en compte la VR dans la fabrication, la conception de la machine. Ça, c'est plutôt un voyant intéressant sur le fait de l'avenir de la VR, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de questions. Où va la VR aujourd'hui avec le PSVR? En tout cas, c'est un élément plutôt positif de se dire, Sony l'a intégré ou l'intégrerait sur la prochaine machine et aurait en tout cas une vision à long terme dessus. Alors, certains commencent à s'enflammer, des analyses commencent à parler d'une sortie en 2018, j'y crois pas une seconde. Sony est archi leader sur cette génération de consoles, il a aucun intérêt à casser le marché de la PS4. Je pense que la machine est encore là de toute façon très longtemps, puisque voilà, même s'il y a une nouvelle génération, la PS4 continuera à se vendre, et à mon avis ils passeront les 100 millions, je crois qu'on est dans les 80, ils passeront les 100 millions. Donc moi je crois pas du tout à 2018, 2019 et encore, peut-être une annonce, c'est même pas sûr, tout ça est à voir. Mais en tout cas voilà, encore une fois, c'est passionnant. Je pense qu'on est qu'au début. Ça va continuer à s'alimenter, ces rumeurs.
C'est marrant parce que c'est vraiment fascinant. Comment on pourrait appeler ça, une sorte de tropisme de gamer, en fait.
Mais
de
bien sûr, mais regarde, tu vas sur Google Images, tu tapes PS5. Et c'est génial. Et ça, on a ça depuis 20 ans. Dès qu'une... Les Nintendo Dolphin, on avait toujours des visuels d'artistes qui imaginent des choses complètement aberrantes, mais ça fait rêver. C'est génial parce que ça lance aussi des perspectives sur le jeu vidéo de demain. Et voilà, donc... voilà, encore une fois, des rumeurs à prendre avec des pincettes, mais qu'on écoute quand même et qu'on note.
Corentin.
Oui, donc on avait parlé la semaine dernière de... Enfin, la semaine dernière, la dernière émission, pardon, de John Mann Nordhagen, enfin plutôt de Where the Water Tastes Like Wine. Je vais l'appeler Water à partir de maintenant pour éviter de manger ma langue à chaque fois. Donc, il y a la personne qui avait travaillé sur Go Home, c'était le programmeur John Mann Nordhagen, qui est donc le principal artisan de ce jeu, qui a fait un long post-mortem sur Medium, où il revient en fait sur son expérience concernant le jeu. Et bah c'est triste quoi, parce que le jeu ne s'est pas vendu du tout. Le jeu est extrêmement déficitaire d'un point de vue financier, on va dire. Et il revient donc sur tout
5000 ventes, hein.
Ouais, moins que ça. Il dit on a vendu moins de jeux que j'ai d'abonnés. Je suis sur son compte Twitter. Il a 4602 abonnés, donc il a vendu moins que 4602 jeux. Ça a peut-être augmenté depuis le médium, je n'en sais rien. Mais voilà, c'est vraiment très très peu pour un jeu, même si ça sort que sur Steam, c'est vraiment très peu. D'autant que le jeu, voilà, avait quand même une production un peu plus grosse que le jeu indé classique qu'on peut avoir, qui serait fait que par une personne, par exemple, comme on peut en voir. Mais voilà, il revient sur plusieurs points. Alors, il commence par ce qui est allé, hein. Notamment, il était très heureux d'avoir pu réunir autant de talents, tant au niveau du casting vocal, qu'au niveau de l'écriture, qu'au niveau des dessins aussi, avec les très jolies illustrations qu'il y a dans le jeu, c'est vrai. Il reconnaît aussi avoir eu une bonne couverture, on va dire, un beau prestige au niveau de la couverture, même si là-dessus, je reviendrai tout à l'heure, c'est pas forcément... c'est à relativiser. Il est aussi content d'avoir eu un bon support de la part de Gambitious, qui s'est occupé de tout ce qui est relations presse, distribuer le jeu et tout ça. Donc Gambitious, qui est créé plus ou moins par les mêmes gars que Devolver, hein. Donc c'est le même cercle un petit peu. Mais voilà, il quand même revient sur ce qui n'allait pas, et je suis assez content parce que la dernière émission, voilà, j'étais un petit peu frustré par ce jeu qui est une vraie recherche d'un point de vue narratif, mais qui là avait des défauts flagrants d'un point de vue gameplay, et tu rigolais quand tu disais mais il n'y a pas eu de playtest. Eh ben, il n'y a pas eu quasiment de playtest, ils disent, c'est un vrai problème, on n'a pas fait de playtest pour plein de raisons, parce que le jeu a pris des proportions trop grandes, parce que on n'a pas pu mettre ça en place jusqu'au bout.
C'est quand même un problème de ne pas avoir de playtest.
C'est quand même un problème, et du coup, il reconnaît qu'à la fin, le jeu devient compliqué à jouer parce que la carte des États-Unis est vide et qu'il ne se passe plus rien. C'est lié au fait que le jeu ait pris une dimension trop grosse, mais il déplore un manque de direction générale de toutes ces choses-là. Et du fait que certaines personnes très importantes soient parties à des moments clés du développement et ça n'aurait pas dû arriver, sachant que c'est un projet qui a été annoncé en 2015 pour la première fois, donc qui a dû être commencé encore un petit peu avant. Donc ça fait un moment en fait que ce jeu
est peut-être encore dessus, d'ailleurs, peut-être qu'il bosse encore dessus actuellement.
Concernant le playtest, tout le monde lui a dit ton personnage va trop lentement, par exemple.
On confirme.
Ou alors un autre point de.
Nous confirmons.
Voilà, et je crois que ça, ils ont dit on va le corriger. Ouais. Et ce que j'avais dit, et j'avais peur d'être un teubé
sur l'interface. Ouais.
Mais il a dit oui, il y a un problème parce qu'en fait on n'a pas pensé que sur PC les gens jouaient au clavier et à la souris.
C'est un détail, mais c'est important.
C'est
mon
cas. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Et c'est exactement ce que j'ai dit, c'est-à-dire que quand on a une manette en main, on a tendance à appuyer sur tous les boutons. Quand on a un clavier devant soi, on n'appuie pas sur toutes les touches. Et à cause de ça, moi je suis passé à côté du menu qui permet de se téléporter, qui permet de changer ses histoires et tout ça. Et c'était un vrai problème.
C'est tout simple ça. C'est pas le truc le plus compliqué.
Il est très triste. Il dit que c'est une catastrophe financière pour lui, même si il a des comme il dit, des skills qu'il pourra remettre sur un marché vidéoludique. Il est programmeur, il va s'en sortir, hein, c'est pas la question. Mais il déplore quand même un marché des jeux indépendants qui est compliqué, un marché où il est difficile de faire son trou par rapport à une autre époque, 2014, où Gnome est sorti, le simple fait de sortir son jeu déjà a été en soi la moitié du chemin parcouru pour avoir un succès commercial. Alors, tu avais vu, toi, de ton côté, Erwan, comment il s'appelle,
le créateur
d'Event Zero, qui relativisait, lui, cet échec en disant que Event Zero, on en avait parlé dans Science on Joue,
On en avait parlé Alors j'ai un doute. Oui, bien sûr, on en avait parlé. On en avait parlé et donc l'utilisateur, alors sur Twitter son pseudo c'est Yakafu, hein, le créateur de Event Zero revient sur les points communs entre Where Waters et Event Zero, notamment sur l'ambition initiale, c'est-à-dire le budget initial, c'est-à-dire que c'est des jeux indés mais avec un budget et assez avec des costaud, grosses équipes entre guillemets pour des jeux indés, plus d'une dizaine de personnes.
On est sur du gros indé.
Ouais, c'est du gros indé ou du petit
avec des
petit double A.
Ouais, c'est et difficile et à situer, il énumère comme ça tous les points communs jusqu'à l'échec commercial c'est au moment de la sortie.
Event Zero aussi avait eu un échec au moment de sa sortie.
Où, lui, il parle de 5000 exemplaires vendus le premier mois. Et ce qu'il explique à la fin de son thread, c'est que il faut pas désespérer. Il faut parce que lui, ils en sont aujourd'hui à 220 000 copies en compte Steam en fait, avec les soldes, avec les bundles, avec tout ce genre de propositions.
Et avec une couverture après coup pour Event Zero qui personnellement m'a fait plaisir parce que c'est à l'époque où j'avais le podcast Passe Ceci qu'on avait reçu justement je crois que c'était Yakafo qu'on avait reçu d'ailleurs et oui, on sentait la déception à ce moment-là et en fait plus tard ensuite j'ai vu des gens comme Mark Brown, tu sais ce game designer, enfin cet ancien journaliste de jeux vidéo qui maintenant traite de game design et des gens qui disent waouh, mais en fait il y a des vraies innovations dans ce jeu-là, donc il y a eu un petit bouche à oreille d'estime qui s'est mis en place
sur l'IA, tout ça,
sur l'IA, d'autant que ce jeu recherchait des choses, enfin c'était quand même bien. Et pour Waters, du coup, j'espère que toutes les recherches, l'expérimentation qui a été faite d'un point de vue narratif, même si moi ça m'a pas touché personnellement, je reconnais quand même qu'il y a une recherche, j'espère que ça va marquer aussi. Et d'ailleurs à ce niveau là je tiens à dire que j'ai l'impression qu'il y a une stupéfaction de la part de la presse jeux vidéo de manière générale sur le fait que le jeu n'ait pas marché, mais maintenant que j'ai un peu le nez à l'extérieur, j'ai vraiment le sentiment que le jeu n'a pas eu une si grande couverture presque ça. Alors par contre, il a eu une couverture de prestige, c'est vrai, le Washington Post en a parlé, beaucoup de canards généralistes, notamment en France, en ont parlé, mais à part ça, j'ai le sentiment que le jeu n'a pas vraiment buzzé, mais que comme nous, on s'intéresse aux jeux vidéo, on a eu l'impression que ça a buzzé, mais j'ai l'impression que la couverture n'a pas été si bonne. J'ai demandé à Thomas Bideau sur Twitter, qui fait partie d'une entreprise qui analyse ce genre de choses, qui vérifie la couverture médiatique de jeu, et il a dit, le jeu a une couverture normale, il n'a pas eu un buzz particulier par rapport à d'autres jeux. Et c'est peut-être aussi une raison pour ça. Il y a peut-être une bulle de filtre qui s'est mise en place, qui fait qu'on a eu l'impression qu'il y a eu un buzz, alors qu'en fait, non, il n'y a pas eu vraiment tant de buzz que ça, et c'est resté assez confidentiel ou dans des milieux, d'initiés, quoi. Donc bon, on verra. Peut-être que Waters aura son succès de longue traîne avec les bundles, pareil avec le bouche à oreille post-lancement.
Ça s'inscrit sur le temps,
Ça s'inscrit peut-être sur le temps.
C'est clair.
C'est jamais cool de souhaiter. C'est jamais cool qu'un jeu se plante, on va dire, et je leur souhaite à ce que ça marche, au moins sur le long terme, et qu'au moins on reconnaisse les essais, les expérimentations qui ont été faites sur ce jeu-là. Bon,
il faut aussi qu'il règle ces petits problèmes d'interface, etc. C'est important parce que ça, le premier ressenti du joueur, il est capital. Et ça, on se paume dans les menus, les choses comme ça, c'est tout de suite.
Je termine dans le thread de Yakafo sur Twitter. Il explique que la sortie n'est pas la fin. Portez votre jeu sur console, traduisez-le, attendez pour des bundles cool, assumez un prix haut.
Oui.
Assumer de vendre votre jeu.
La jurisprudence The Witness, n'oubliez pas.
Assumer un prix haut et soyez patient.
Et ça, d'ailleurs, il dit traduisez-le. Et ce qui était très intéressant, c'était les gens de Tiny Build. Donc, c'est les gens qui avaient fait No Time to Explain ou qui éditent aujourd'hui Hello Neighbor. Ils expliquaient, ils disaient alors, dans quelle langue vous devez traduire votre jeu ? Quels sont les pays qui vont le plus vous pirater ? Si jamais vous. Donc, ils vous déconseillent par exemple le portugais et le russe. Vous allez vous faire pirater par les brésiliens et les russes, grosso modo. Qui malheureusement ont une fâcheuse tendance à beaucoup pirater. Et par contre, ils disaient alors, par contre, en français et en allemand, allez-y, c'est une bonne idée parce qu'ils ont tendance à acheter leur jeu. Et c'est intéressant de voir ce genre. Alors, le mec est un rageux quand même, le mec qui avait fait ce post-là, mais c'était quand même intéressant de voir ce genre de choses. Voilà, donc il a raison, Yakafo, et courage à Waters.
Le com des coms d'il y a 3 semaines maintenant, quelque chose dans le genre, avec Red qui nous dit c'était vraiment intéressant vos avis différents sur The Council, c'est pour moi la meilleure manière de parler d'un jeu vidéo que d'opposer des sensations contraires dans une discussion sereine.
On n'était pas d'accord, Erwan,
c'est rare, ça fait du bien. Ça rappelle les bons moments avec Clément et c'est bien plus enrichissant que quand tout le monde est d'accord. Perso, le jeu me botte bien et son petit côté radical m'attire plutôt. Oui, bon, moi j'avais bien aimé aussi. On était vraiment pas d'accord.
Sur quoi on va se friter aujourd'hui?
Moi j'ai ramassé les dents, c'était bien.
et Stonga9 qui dit Chuchel, 10 euros pour un jeu flash, c'est où finalement rien n'est vraiment pensé de manière ludique, où le gameplay est inexistant, car comme l'a expliqué Corentin, c'est du clic au pif sur la planche pour finalement avoir une pseudo-blague animée et tourner la page.
C'est marrant parce que je dis la même chose de Monkey Island, donc finalement c'est du clic au pif, tu vois.
Pas Monkey Island.
Une BD interactive sans grand intérêt, en somme, comme l'était Botanicula. Alors, cher Stonga, il faut juste que je te présente mon fils, qui a fini 3 fois Chuchel. Alors, au début, en plus, il avait du mal avec notamment les...
Redis l'âge de ton fils, parce que c'est
5 ans et demi, bientôt 6. Et il avait du mal avec les séquences jeux vidéo, entre guillemets, quand il y a un truc de Pac-Man, les Invaders et tout ça. Et maintenant, il commence à comprendre comment le faire. Il est juste Chuchel en boucle, notamment parce que... c'est peut-être pas la cible, les trentenaires, quadras ou ce genre de choses, c'est peut-être pas la cible. Mais alors, en termes d'impact sur un enfant, c'est absolument incroyable.
Puis c'est vrai que les jeux flash, je veux dire, ça n'a jamais d'avenir. Je veux dire, Binding of Isaac, ça n'a pas marché. Meat Boy, pareil. Je veux dire, c'est les jeux flash, c'est nul, quoi.
Donc, et il s'en est suivi, hein, donc toujours sur les exceptionnels forums de Silence en Joue, un grand débat que je vous invite à aller lire sur le thread de l'émission précédente. Eh bien, je pense qu'on en est à la moitié de l'émission et on va commencer par les jeux vidéo. Mais c'était un peu exceptionnel quand même. Et j'ai un casque sur les oreilles, je kiffe, vous ne pouvez pas savoir. On va commencer à parler jeux vidéo avec hashtag Wargames. They're calling mom a traitor. You can do something, right, Kel, can't you? I'm hacking York. Upload complete. Now we play a game. War is my favorite. Sam Barlow, vous vous rappelez de Sam Barlow? Sam Barlow, bah c'était mon Game of the Year, comme on dit.
C'est Heavy Rain, non?
Her Story.
T'es con.
Voilà. Et moi, je réponds.
Et toi, tu réponds. Mais... Her Story, jeu absolument incroyable qui avait pris tout le monde de court. En tout cas, moi, j'étais pas prêt. Initier un genre qu'on a vu réutiliser, ce qui est peut-être pas souvent le cas quand un genre arrive, le genre de puzzle narratif, un puzzle narratif, Her Story, cette histoire qui préexiste et qu'il faut reconstituer, avec en plus cette particularité dans Her Story d'avoir une sentiment de liberté très intense dans l'exploration de l'histoire, parce qu'il fallait faire, on récupérait des bouts de vidéo par la recherche de mots clés, il fallait chercher des prénoms, chercher des noms propres, des événements, ce genre de choses, pour tomber sur des vidéos et comme ça reconstituer petit à petit l'histoire à partir de plusieurs vidéos d'audition de police. Voilà, donc ça c'était en 2016, si je ne m'abuse. 2015.
Un jeu qui a contribué à remettre la full motion vidéo, parce que c'était pas plein écran non plus, mais en tout cas voilà, la vidéo tournée avec des acteurs dans un jeu à l'honneur et à redonner aussi une nouvelle forme d'exploitation de ce format qui était un peu passé
Il leur donnait ses lettres de noblesse.
Il a vraiment su le reprendre et l'utiliser différemment des Night Trap, etc. Ouais. Qui étaient vraiment des jeux en branchement.
Et alors, au niveau du gameplay, dans les héritiers directs, il y avait Normal Lost Phone, hein, qui était vraiment dans la même catégorie. Et donc, quand Sam Barlow, il y a quelques mois, annonce sans rire qu'il travaille sur l'adaptation moderne
avec la MGM
de War Games, ça a dû te parler, Patrick.
Bah, évidemment que ça me parle. Évidemment, moi, c'est un de mes films, c'est un de mes fantasmes de gamin. Quand j'ai vu War Games, ça me faisait rêver, ce type qui se connectait au réseau, qui parlait, c'était Whopper, le
plus
fameux...
ou moins que Electric Dreams.
Moins. Tout est moins qu'Electric Dreams. Parce que Electric Dreams, c'est pas un film, c'est un chef-d'œuvre. Mais non, mais voilà, en tout cas, c'est marrant, tu parles d'Electric Dreams. C'est une époque où l'ordinateur fait rêver. C'est une machine un peu mystérieuse et du coup il y a beaucoup de fantasmes autour de cet ordinateur un peu mystérieux, une sorte de menace. Et c'est vrai que Wargames abordait ça avec le petit bidouilleur dans sa chambre qu'on était tous à l'époque. Moi j'avais un Amstrad, mais bon, on rêvait de pouvoir se connecter comme ça.
Moi, il y a cette image qui m'a hanté, mais pendant longtemps, hein, c'est ce combiné téléphonique
avec un petit écran.
Avec un truc, et c'était le modem en fait. C'est-à-dire que les données passaient par le son combiné téléphonique et était encodé, décodé.
Sa console, il y avait une console, c'était un ordinateur, un type particulier, avec une espèce de console sur le côté. Enfin bon, voilà, il y avait toute une imagerie Wargames. Puis il y avait une tension dans ce film. Bah, voilà, ça posait pas mal de questions. Donc Wargames, c'est un monument. C'est un monument pour, bah, pour les geeks, pour tous les gens qui s'intéressent à l'informatique et. Donc là, oui, Wargames, la marque, on retrouve la marque. Alors après, on n'est plus du tout dans la même ambiance, attention. Hein. On n'est pas dans le côté rétro, rétro-futurisme de Wargames. On n'est pas dans les mêmes questionnements. On n'est plus dans la Troisième Guerre mondiale potentielle. On n'est plus dans voilà, l'informatique des années 80 avec sa, cette part de fantasme. On est dans quelque chose de plus prosaïque. Et c'est un parti pris plutôt intéressant, finalement, c'est de resituer Wargames en 2018 et de se dire, ça serait quoi aujourd'hui la menace voilà, d'un monde, bah, du monde connecté d'aujourd'hui, de l'informatique, de la place qu'a l'informatique dans le quotidien du, de l'utilisateur, parce que c'était ça aussi Wargames, c'était l'informatique qui est chez toi et ce que ça te permet de, voilà, d'aborder face au
et
monde.
Que, et que peuvent dire le même la figure, que peut dire la figure du hacker?
Le hacker, voilà.
Voilà qui est, même. Parce que finalement, c'est ça Wargames, c'est la figure du hacker,
c'est ça, ouais.
Du hacker justicier, évidemment, ouais, hein, c'est deux catégories, ce hacker héros.
Justicier anonyme. Hein, aussi,
oui, voilà, c'est ça. C'est
un hacker... Anonymous, quoi, presque.
Bien sûr. Et en 2018, forcément, on arrive sur, sur de l'activisme, du activisme. Hein,
exactement. On est plus dans le même cas de figure, comme je disais, avec voilà, le hacker un peu isolé du premier. On est sur un autre cas de figure. On va pas rentrer dans tout le détail du scénario parce que je pense que voilà, le jeu est pas très long. Donc, quand on s'y plonge, non. Le mieux, c'est de découvrir. On va juste dire qu'on parle d'espionnage, qu'on parle de, voilà, de comme je disais, d'informatique d'aujourd'hui, hein, sur l'ultra-connexion, sur les médias, aussi un rapport aux médias qui est assez important. Et surtout, le jeu, bah, il a cette particularité de se présenter comme un film interactif, avec une disposition différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans le domaine. On parlait encore de Late Shift il y a quelques temps.
Je pense que
Erwan, on avait parlé il y a quelques temps de ce jeu qui était plutôt conservateur dans le système, pas dans la forme, parce qu'il était très moderne avec son
tourné en HD, etc. Avec une fluidité incroyable.
Mais qui était encore très conservateur dans le côté, selon mes choix binaires, je vais enclencher tel fichier vidéo qui va me conduire sur un autre embranchement, etc. Donc quelque chose qu'on connaissait plutôt bien. Là, on est sur un autre format, et c'est ça, pour moi, c'est là où le jeu réussit quelque chose, Wargames, ce qu'il propose, il a une proposition vraiment innovante. Alors, tout n'est pas réussi, on va en parler, hein, mais je trouve qu'il a une proposition innovante dans son format, c'est-à-dire que, pour résumer, donc on regarde ce film qui se présente sous le... On pourrait le situer sous différentes fenêtres vidéo qui se parcourent en même temps, donc ce sont les différentes entrées vidéo des différents protagonistes qui échangent entre eux, qui se parlent, et le joueur intervient en fait en choisissant quel protagoniste il va écouter et regarder en plein pot et laisser les autres en périphérie.
Mais on les voit, ils sont toujours là, en fait.
Ils sont toujours là, mais on choisit de mettre le focus comme si on était réalisateur de cinéma, en fait on plante notre caméra chez l'un ou l'autre. Moi, ça m'a rappelé le système de split screen qu'on avait au cinéma. De Palma l'a beaucoup utilisé. Moi, je me rappelle, c'était son film Redacted qui était sorti il y a une dizaine d'années, qui jouait beaucoup là-dessus sur les fichiers vidéo différents qui mettaient en scène. Bon, là, c'était évidemment un film linéaire. Là, on a ce côté jonglé comme ça avec les flux vidéo qui est assez vertigineux. C'est-à-dire, quand on lance la partie, au début, on comprend pas trop ce qui se passe. On gère comme ça ces flux vidéo. Donc, on suit une histoire avec différents protagonistes qui se parlent par webcam interposée ou qui balancent des flux vidéo. Donc, nous-mêmes, avec la souris, on clique sur l'un et l'autre, on choisit qui on va écouter plutôt que l'autre.
Sachant que quand on clique, ça grossit une image
ça
les vignettise les autres. En fait, les autres sont vignettisés autour. Il y a un seul, à ma connaissance en tout cas, il y a une seule piste son, c'est-à-dire que le son reste toujours le même.
On entend la même chose. Quelle que soit la vidéo.
Il y a une seule piste de son, mais on choisit le focus de l'image. En fait,
le gameplay, il est là. C'est qu'en fait, en choisissant sur qui on va focaliser la caméra, entre guillemets, ça va intervenir sur le déroulement de l'histoire.
Corentin.
Oui, voilà. Alors moi, ce qui m'avait... je trouvais ça intéressant. De toute façon, dès que Sam Barlow touche à quelque chose qui s'apparente à, on va dire, un mélange entre série et jeu vidéo, comme on a pu le voir dans Her Story, c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qu'il va faire pour rendre hybride ces deux médias-là. Et autant dans Her Story, c'était intéressant parce qu'il y avait une unité de lieu intéressante. On était toujours dans cette salle d'observatoire. Mais par contre, on était perdu au niveau du temps parce qu'on ne savait pas à quel moment on était vraiment. Quand on voyait cet extrait-là, il fallait nous-mêmes refaire un petit peu... chronologie. Il fallait refaire une chronologie. Ouais. Ici, on a plutôt une unité de temps puisque tout se déroule en simultané et en temps réel. Donc, en fait, tout se passe. Alors, il y a des jours, il y a des ellipses évidemment, mais voilà,
mais
tout
c'est
se
vécu,
passe
ouais,
en temps
séquence,
réel.
Plan voilà. séquence, ouais, je crois.
Et
ouais.
à différents endroits. Donc, c'est plutôt les endroits qui sont éclatés, notamment quand, par exemple, l'héroïne qui s'appelle Kelly va commencer à discuter avec des hackers inconnus qui refusent de donner leur identité. Ben, on ne sait pas où ils sont, ce genre de choses. ou alors, tiens, on va commencer à espionner telle personne. Donc, on a planté une webcam à tel endroit et on observe à quel moment elle s'en va. Et donc, c'est intéressant d'avoir un petit peu, de passer de l'autre côté, en fait, de la manipulation du temps et de l'espace de la part Sam Barlow. Alors, du coup, c'est un peu moins intéressant parce qu'on a, on a moins le sentiment d'être en charge de ce qui se passe dans le jeu. Parce que, mais c'est normal, puisque c'est en simultané et qu'on se laisse un petit peu embarquer dans le train des événements, et ben oui, les choses se déroulent un peu, on est un peu à l'extérieur, on reste spectateur, alors que dans Story, on se sentait vraiment investi de comprendre ce qui se passe. Alors que dans Wargames, bon bah, les choses se déroulent.
Dans Wargames, tu peux laisser la caméra sur un personnage et rien toucher, et le jeu va
se dérouler.
Alors, va se dérouler, ouais.
Et c'est peut-être là où on touche au cœur du problème, du problème si c'en est un, tout dépend ce qu'on recherche en vrai. Parce que si vous allez chercher un jeu vidéo dans Wargames, oui, vous allez être déçu. Si vous allez chercher une série dans Wargames, vous allez plutôt être satisfait d'avoir une série un peu plus dynamique que ce que vous allez voir, d'autant que c'est plutôt court, c'est une heure, donc si vous avez une soirée, bah hop, ça se fait assez rapidement, c'est un peu plus d'une heure.
Une heure et demie, ouais.
Ouais, voilà. Ouais. Et donc c'est intéressant, et du coup, on sent que Sam Barlow a cherché quand même à montrer et à accentuer le retour, parce que c'est le vrai problème, c'est le feedback. Il n'y a pas de feedback réel sur ce qu'on va faire, sur les actions qu'on fait et leurs conséquences. Donc on a une petite barre en haut qui se déplace en fonction de l'écran qu'on regarde, ouais. ce qui nous montre un petit peu nos changements de choix dans les plans qu'on choisit. Ou dans
la fin du chapitre aussi, on a un récap de...
Et à la fin du chapitre, on a un récap, mais contrairement par exemple à un Telltale Games classique où on va vous dire, vous avez fait telle action, machin va s'en souvenir, on vous dit pas ce qui se passe, mais on dit ça a de l'importance.
Ah, on l'a, il y a un petit moment où ça marque sauvegarde en cours, choix sauvegardé, mais je suis d'accord, moi c'est une des reproches.
C'est une sorte de, pour moi, ce que j'ai vécu ça, c'est comme une sorte d'interactivité émergente. Il y a quelque chose,
c'est expérimental quoi.
C'est une expérience d'une
c'est
part
intéressant, mais...
il a essayé en fait. Sam Barlow a pris le problème narratif, voilà, il y a une histoire. Et un peu comme il avait déconstruit cette interactivité dans Her Story, c'est-à-dire qu'on a une histoire, comment est-ce qu'on intègre une interactivité à partir du moment où on a une histoire très linéaire. Dans Her Story, il l'avait complètement puzzleifié, c'est-à-dire qu'on crée des bouts d'histoire, mais l'histoire reste la même. Mais cette interactivité, c'était en fait...
Le jeu était sorti du jeu, quoi. Enfin, le jeu était dans notre tête, en fait.
Voilà, il était
c'est
chez toi, joueur. Ouais.
Le joueur se créait sa propre narration, il se promenait à travers l'histoire. Et là, en fait, il finit par aller à l'autre bout du processus, finalement. Ah, il va à l'autre bout du processus de Her Story, c'est-à-dire qu'il prend toujours une histoire linéaire, mais comment, finalement, intégrer une interactivité où là, le joueur ne va même pas avoir l'impression d'influer sur l'histoire. Il va juste créer une interactivité en choisissant ses focus, c'est une interactivité. Pour moi, c'est une interactivité.
Pas clair. Je trouve que le contrat n'est pas clair, en fait. Je trouve que c'est mal expliqué au début du jeu. Ouais. On te dit pas vraiment comment tu as interagi. On le devine en faisant un test, deux tests. On voit qu'en effet, si je clique sur telle personne, je vois qu'il y a des arrangements différents, mais c'est pas clair. Je trouve que et c'est important dans un jeu vidéo d'avoir des règles, de dire voilà comment ça fonctionne et de pouvoir jouer justement avec ces règles. Et je trouve ça paradoxal dans ce système. On est dans une famille de jeux qui est passionnante. Moi, c'est le jeu dont toi, joueur, tu consultes la matière elle-même. Pour être plus simple, hacker dans les années 80 te faisait incarner un pirate informatique où tu avais une simulation d'interface d'ordinateur. Vienno l'a beaucoup fait aussi avec Vienno, avec In Memoriam, où tu jouais l'enquêteur avec ton ordinateur. Donc c'est passionnant, mais là c'est important dans ce cas-là que toi en tant que joueur tu aies vraiment les commandes, tu aies les manettes. Et là ça nous échappe. C'est vrai qu'on et encore une fois, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est que le contrat ne soit pas clair, les règles sont floues et
en fait les interactions sont pas intégrées dans la diégèse du jeu. Donc la diégèse, c'est tout ce qui est considéré comme dans l'histoire du jeu. Et du coup, par exemple, il y a y a un moment particulier dans le jeu, je dirais pas ce qui se passe, mais où on a un choix à faire.
Ouais.
Il y a un choix, c'est le, d'ailleurs, je crois que c'est le seul choix quasiment vraiment fort.
Mais on saisit
à faire.
Pas bien.
Mais qui on est pour faire ce choix? Qui on est? On est personne dans le jeu. Nous-mêmes, on n'incarne pas Kelly, qui est l'héroïne principale.
Oui, on est désincarné, c'est
on
vrai.
On est désincarné.
Les acteurs sont bons en plus. Là, alors, une parenthèse, mais les acteurs
tout
sont
le reste,
plutôt bons.
Tout le reste est bon. La production est bonne, c'est intéressant. Ça donne une image un peu plus réaliste des hackers que ce qu'on a tendance à voir. C'est-à-dire que, bah ouais, un hacker, il va créer un faux compte sur Tinder et il va tenter de te séduire pour avoir juste tes infos personnelles. C'est pas, il va pas rentrer, casser des firewalls, machin. Non, non, il va juste te berner, quoi.
Ouais,
c'est
le hacking social. Hein,
le hacking social, ou alors, genre, bah, t'as un mec dans le hall d'un hôtel et puis t'en as un autre qui essaye, qui fait, c'est bon, il est parti. Ouais, il est parti, tu peux y aller. Et du coup, en fait, il va vraiment rentrer dans la chambre d'hôtel pour choper une clé USB ou mettre une clé USB au cul d'un ordi pour pouvoir rentrer dedans. Donc, c'est une vision moderne du hacker.
C'est les petits frissons, la night trap, non, c'est
ouais,
bon,
ouais,
là,
ouais.
Où tu cliques sur la caméra de surveillance, tu cliques d'ailleurs en même temps vite. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je vais regarder s'il y a quelqu'un qui passe dans le champ de vision. C'est marrant, ces petits moments-là.
Ah, ça, c'est cool.
Tu te sens un peu aux manettes à ce moment-là.
Les passages,
ça échappe vite.
Les passages de tension, t'es là et tu te fais du souci en fait pour les personnages.
La barre de
chargement,
là,
t'es là, tu. Oui, non, mais c'est ça,
la
barre de chargement qui se
fait. Là, ça marche.
Dépêche, t'es là, t'es en mode.
Ça fonctionne.
Tu vas sur les caméras de sécurité. Elle en est où, l'autre con? Oh merde! Elle arrive.
Mais encore une fois, les codes ne sont pas clairs. Et ça, je trouve que c'est dommage de pas avoir été plus. Je me rappelle Night Trap, le type te montrait une manette Mega Drive. Regarde, tu as un Mega CD, tu vas actionner ça avec tes boutons, etc. Non, mais c'est important.
On est intégré.
Non, mais c'est important.
Mais voilà, un objet un peu moins pur que Her Story.
En tout cas, ça pose des vraies questions de réflexion sur le film interactif. Et je pense que ça demande à être re-questionné. Voilà, en tout cas, il ouvre des portes intéressantes.
C'est aussi cool parce que je peux me mettre à agiter les bras d'une manière absolument non télévisuelle pour dire à mes chroniqueurs, bon, les gars. Il faudrait penser.
Il prend des formes étranges.
Est-ce qu'on peut dire que c'est gratuit au moins?
Ah ouais, voilà. Alors
c'est important.
Gratuit sur navigateur web, 6€ sur Steam.
3€. Et je crois que c'est possible via une application iOS, mais il y a des pubs, je crois, c'est ça.
Voilà.
Bon, quelque chose en dehors.
Mais voilà.
Moi, il a planté sur Firefox. Hein, je l'ai lancé sur IE.
D'accord.
Bon, voilà.
Oh my god. Ok. T'as relancé Internet Explorer.
J'ai pas pu jouer sur Firefox. Je sais pas pourquoi. Il plantait tout le temps. Bon, bref, c'était ma vie.
C'était ton tout seul.
Donc, hashtag WarGames sur différents supports.
Sur
Echo,
ou, EKO.
EKO, voilà.
Il est très mal référencé le jeu. Mais des WarGames,
mais oui, j'ai
Echo,
le
EKO.
Aussi,
oui, c'est ça. Exact. Très bonne remarque, Corentin. On enchaîne avec peut-être le blockbuster de ce début d'année, en tout cas. Annoncé depuis déjà pas mal de temps, qui a fait énormément parler de lui lors de son premier trailer, car on y voyait cette Amérique un peu rurale, rustre, redneck. Et donc, ça rappelait l'Amérique de Donald Trump. On va en reparler, c'est Far Cry 5. This world is on the brink. Don't you understand what we're trying to build? And now, collapse is upon us. We will take you, willingly or not. Cult stealing our land, kidnapping our friends. This is our home. I thought if we could just hang on, Eden's Gate would just go away. They've been waiting for somebody to kick off their goddamn holy war. Far Cry 5, bien sûr. 3, j'aurais presque tendance à dire Far Cry 3, hein, parce que on a vu le premier Far Cry, Crytek, le deuxième Far Cry avec repris par Ubisoft,
mais, en Afrique,
qui en avait fait un truc qui ressemblait
hardcore.
Pas à grand chose. Enfin voilà, qui avait manqué.
Ah, mais qui était intéressant. Hein,
oui, qui
il
était intéressant,
mais
voilà, il manquait une ligne directrice.
Et puis
pour,
il était trop hardcore. Enfin, il
et
était,
puis, et
épuisant.
Puis ce Far Cry 3, open world assez magnifique avec un méchant absolument incroyable.
Un vrai méchant.
Le quatrième et enfin ce cinquième qui avec le méchant rappelle le 3 quand même hein, sur ce jeu d'acteur assez marquant de l'adversaire principal. Far Cry 5 comme je disais annoncé lors de je ne sais plus
ouais,
trop
sais
quoi
plus, un petit
un
moment.
Événement hein, ça fait un an et demi quelque chose dans le genre et ils avaient présenté cette vidéo où on voyait voilà cette Amérique rurale ce Hope County ce comté américain pris à la main d'une sorte de d'intégriste catholique chrétien survivaliste
église évangéliste en fait
et c'est vrai et c'est voilà et c'est vrai que dans un, qu'on supposait à l'époque un peu voilà cette Amérique un peu raciste un peu arriéré d'arrière-garde plutôt
ça tombait au moment voilà où Trump est mis au pouvoir etc voilà. Donc je pense que voilà il y a eu une résonance à un moment
et forcément voilà ça parle aux gens et puis ben finalement plus ça avançait plus on sentait que ce côté un peu politique de la chose allait passer au second plan ou en tout cas n'était jamais arrivé au premier plan chez Ubisoft et puis ce jeu sort ça nous permet de nous faire un avis et ça permet à toi Patrick tu l'as bien écumé en tout cas plus
oui,
que nous
j'ai
deux.
Passé quelques heures moi j'adore la série enfin tu parlais du deuxième que j'avais beaucoup aimé malgré son côté hardcore assez
répétitif
assez
aussi là.
Ouais il était répétitif il était décourageant mais il valait le coup de s'y plonger le 3 évidemment le 4 était un petit peu moins innovant le 4 c'est vrai que là le 5 c'est vrai qu'il a été beaucoup mis en avant sur son
il y avait eu Far Cry Primal aussi
oui. Et puis il y a eu Blood Dragon ouais. Évidemment ouais. On va pas revenir sur ce tour de force monstrueux qui était génialissime non Far Cry 5 moi c'est marrant parce que oui il est pas mal critiqué je lis beaucoup de critiques en ce moment sur oui le message on attendait quelque chose de plus cinglant sur l'Amérique de Trump etc mais est-ce que c'est ce qu'on attend vraiment en jouant à Far Cry ? Est-ce que c'est vraiment ce que j'attends d'avoir un jeu politiquement chargé en jouant à Far Cry ? Bah, je suis pas sûr, sincèrement. Moi, je trouve que le jeu fait le job. En fait, le début est, il y a une mise en scène vraiment très bonne. On a tu incarnes un ou une shérif qui débarque dans cette région, donc qui a la solde de ce gourou qui est plutôt bien joué. On a un personnage encore charismatique et magnétique à l'écran. C'est vrai que dès qu'il apparaît dans le jeu, on le voit pas énormément, mais dès qu'il apparaît, comme dans Far Cry 3, il hérisse le poil. Enfin, il a quelque chose de magnétique ce personnage. Et c'est un peu comme dans les James Bond. C'est un peu la règle bondienne. C'est un bon méchant. Fait un bon jeu, une bonne histoire en général. Et là, on sent que, en fait, on a un héros complètement transparent qui parle quasiment pas. Je crois qu'il dit rien. Toute l'action du jeu est orientée sur le méchant général, sur sa famille, parce qu'on va affronter les différents membres de la famille Sid. Donc, ils tiennent chacun une région du comté qu'ils dominent. Et encore une fois, voilà, il faut pas se leurrer. Enfin, quand on lance un Far Cry, c'est avant tout pour goûter à de l'open world massif, colossal en termes de taille, avec surtout ces différents systèmes qui interagissent, les animaux. Et là, on a vraiment de quoi faire. Il y a beaucoup d'interactions avec des animaux, des ours, il y en a partout, des chiens qui sont
c'est
avec
très
nous.
Far Cry,
etc.
Ça.
Et c'est ça Far Cry pour moi. Enfin, voilà, moi, j'attendais pas forcément une critique sociétale de l'Amérique d'aujourd'hui. Je suis pas sûr que ça ait sa place, même dans la série. On lance pas un Far Cry pour ça. Voilà, encore une fois, pour moi, ce sont des simulations de blockbuster des années 80, les Far Cry. J'y joue pour avoir des scènes d'action complètement déglinguées, avec du n'importe quoi, des fights complètement fous. Et là, je trouve que sur le 5, on est vraiment servi parce qu'on a un jeu. J'ai eu l'assentiment en fait on a une carte gigantesque comme toujours avec qui est très jolie je trouve graphiquement on a vraiment une
oui,
teinte
c'est vrai que c'est
on a
c'est
une
assez
vraie teinte organique on a quelque chose de finalement plus terre à terre qu'avant c'est vrai qu'on avait quelque chose de très exotique dans les précédents on partait vraiment des voyages sur des vraies cartes postales là on est sur quelque chose de plus terre à terre sans jeu de mots on est sur quelque chose de plus terrien qu'on connaît au moins par les films on a l'impression vraiment de se balader dans des décors de films qu'on connaît bien depuis le western et autres mais ça marche bien finalement on est sur quelque chose de très concret et en fait il y a une densité dans ce jeu. En fait, on peut pas faire 100 mètres sans qu'il se passe un truc, sans qu'on ait des animaux qui s'attaquent entre eux, qui attaquent les ennemis, des ennemis qui débarquent. On a des véhicules dans tous les sens, des motos, des quads, des avions, des voies. Enfin, il y a de l'action non-stop. Et je trouve que pour ça, le jeu remplit son deal. Alors, c'est vrai qu'il y a un étiolement. C'est vrai que le début part très, très fort, avec une scène, je disais, d'ouverture très forte. Donc
c'est assez intense. Hein.
Le début est fou. Enfin, il y a une mise en scène folle où on arrive, en fait, pour arrêter ce leader charismatique. On a presque une ambiance à la Resident Evil 4. On arrive dans un village comme ça, avec des mecs un peu bizarres qui nous regardent. On sent que ça va péter d'un moment à un autre. Ça pète, évidemment. On se retrouve isolé là-dedans, dans une ambiance. On se retrouve, voilà, Far Cry commence vraiment là, dans l'isolement, où il faut acquérir la géographie. C'est ça le Far Cry, c'est conquérir une géographie et peu à peu gagner ses points comme ça, reprendre la terre. Et je trouve que voilà, on est vraiment sur un Far Cry pur jus. Alors certains critiquent voilà, ce manque de... Peut-être. C'est vrai que finalement, ce leader charismatique, on le perd de vue. Mais comme souvent dans les Far Cry, hein, on le revoit quelques fois, mais... Pour moi, le héros, c'est pas le shérif, c'est pas ce méchant, c'est le territoire. C'est le territoire, le rapport qu'on va avoir à cette terre qu'on explore, qu'on va s'amuser. Moi, en plus, j'ai ce côté. Alors, je sais que certains n'aiment pas ça, mais moi, j'ai, dans les jeux Ubi, il me prend sur ce côté collectionniste. C'est-à-dire que je passe mon temps à récupérer des trucs à looter dans tous les sens. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Moi, j'aimerais que c'est. Je mords à ce principe qui fait que, je vais explorer tous les trucs, faire les petites missions secondaires, aller explorer. Il y a des trésors cachés, on va les chercher. Là, il y a pas mal ça remplace un peu les temples qu'on a dans les Zelda ou autres, ce sont les cages de survivalistes. Alors, au début, c'est très simple, on trouve une porte, on rentre et hop. Et puis, plus on avance, et puis il va y avoir des petites énigmes, il va falloir trouver une note qui va nous dire, tiens, telle clé, je l'ai cachée là. Bon, ça va jamais très très loin. Mais ça vient apporter aussi une respiration dans le jeu. Je trouve que, encore une fois, c'est quelque chose, c'est un jeu qui est très généreux en termes de d'action. Et encore une fois, moi, j'ai vraiment, quand je lance une partie de Far Cry, j'ai l'impression de me retrouver dans ces films d'action des années 80 que j'adore, les Cobra, tous ces films complètement décérébrés, mais finalement, il y a un plaisir un peu coupable de se lancer dedans. Et puis, on prend son pied quand on aime ce genre de d'univers. Alors, et d'action décomplexée. Voilà,
je n'y suis pas resté aussi longtemps que toi. J'aurais faire deux petites remarques. Une remarque que j'ai trouvée. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû. C'est toujours ce genre d'ingrédients un peu trop subtils pour que je puisse analyser, mais je le trouve très agréable à manier. Peut-être plus que les précédents en termes de il y a sans doute pas un énorme truc, mais je le trouve
c'est assez, même moteur qui évolue, mais c'est
assez,
le même moteur
assez agréable à parcourir en tout cas en termes purement mécaniques. Et quand même, je voudrais revenir, parce que c'est sur cette absence de politique. Moi, j'ai ressenti un peu la même chose que Assassin's Creed Unity, les gens d'Ubisoft sont très forts pour faire des open world, des open world assez captivants, en tout cas visuellement et ludiquement aussi. Enfin, c'est des choses qui... Et ce qui m'avait choqué un peu dans Unity, c'est que il y avait ce contexte historique, qui a fait narratif, polémique. Ce contexte narratif et historique
qui était pas anodin,
qui demandait presque de prendre parti. Ça veut dire quoi, prendre parti? Ça veut dire pas forcément faire son aventure sur un sujet politique, mais que le théâtre, l'environnement, le décor politique de l'aventure prenne parti. Or, dans Assassin's Creed Unity, on avait juste l'impression que il y a un peuple, il y a des aristos qui se mettent sur la gueule, et nous on traverse au milieu, on prend pas parti entre les deux. Je suis désolé, quand il y a un peuple et des aristos en 1789 qui se mettent sur la gueule, si on prend parti, pas forcément que ton personnage prenne parti, mais que ce décor politique, ce décor environnemental pratiquement, il aille dans un sens, il explique un truc. Et là, c'est un peu la même chose, on est dans un contexte géographique et historique parce que c'est aujourd'hui, c'est actuel, c'est cette Amérique là
c'est ancré dans une réalité.
Je dis pas de faire de Far Cry 5 un brûlot, un pamphlet anti-Trump, c'est pas ça. C'est juste de dire que cette Amérique profonde, rurale, il y a un contexte politique qui l'explique. Il y a une désespérance. Il y a peut-être quelque chose
sur l'économie. Tu veux dire oui
sur l'économie, sur aussi les armes. Armes, c'est le débat. D'aujourd'hui. Il y a des débats politiques qui traversent les États-Unis, qui sont des débats importants. Et je ne dis pas d'en faire de pas faire de Far Cry 5 un comme tu dis un brûlot, un pamphlet anti-Trump. C'est pas le sujet, mais d'expliquer ce contexte, de mettre en scène
un
contexte plus politique que celui-là, et je trouve que là-dessus c'est un peu dommage, et je pense que c'est un vrai manque de courage en fait pour le coup.
Ouais, de prendre le risque. Pour moi, c'est du pur jeu bac à sable, mais dans le sens le plus fort du terme, c'est-à-dire que quand je joue à Far Cry, je me retrouve comme un gamin, je joue avec mes petites voitures à casser les voitures, les jeter contre les arbres. C'est un vrai bac à sable.
Je ne dis pas que l'un n'empêche pas l'autre.
Je suis d'accord, il y a pas de.
Je pense qu'on peut continuer à faire ce bac à sable avec un décor, un environnement peut-être plus ambitieux.
Je suis d'accord. Alors juste un mot quand même sur le mode Far Cry Arcade qui est intégré dans c'est fabuleux, parce que donc c'est pas la première fois qu'on a un éditeur de niveau. Il y avait déjà en Far Cry 2, j'avais un peu tâté, c'était pas forcément évident. Là donc on a un mode de création de cartes, de partage et de notes
Dans
joueurs.
Far Cry 2 il y avait ça, oui.
Il y avait ça dans Far Cry 2 déjà. Et c'est fantastique parce qu'il y a déjà une communauté qui s'y est mis, qui a commencé à créer des cartes. Il y a des trucs hallucinants. Déjà en quelques jours à peine, le jeu est sorti tout récemment. Il y a déjà des créations folles avec des niveaux genre Horde où on doit se battre contre des monstres dans tous les sens, mais surtout des répliques de niveaux de Resident Evil 7 par exemple. J'ai refait la maison dans Resident Evil 7. Silent Hill, on a des cartes inspirées de jeux, on peut mixer des objets de Assassin's Creed, de Watch Dogs, enfin c'est, franchement ils ont bien pensé le système, ça m'a l'air plutôt simple.
Ah, mais ça, j'avais
de...
pas vu.
Et ouais, on peut brasser comme ça, enfin en tout cas il y a déjà beaucoup de créations vraiment intéressantes, moi j'en ai déjà mis pas mal en favori sur ma bécane, et c'est un vrai plaisir, et ça je pense que ça peut aussi entretenir le jeu sur la durée, créer des communautés. Puis bon, il y a un season pass qui a l'air complètement fou qui arrive avec des contenus, avec des aliens, j'en avais déjà parlé, des invasions.
On va pas y revenir.
Que c'est du Blood Dragon, et là magie, voilà, allez-y.
Ça qui est bien avec Far Cry, c'est qu'ils ont pas de limite, y compris dans les univers alternatifs qu'ils peuvent mettre dans la DLC, ça
sera peut-être même plus intéressant que Far Cry 5 d'origine. À mon avis, les extensions là avec les invasions aliens et les zombies, etc., je vais suivre ça de très près parce que
sans blague,
gros potentiel. En tout cas, moi je recommande, moi je suis déjà à beaucoup d'heures de jeu, et c'est vrai que je prends mon pied, comme tu dis, peut-être qu'il y a, voilà, ça manque peut-être de mordant clairement sur la thématique. Bon, après, voilà, il faut savoir ce qu'on attend d'un Far Cry.
Tout à fait. On va enchaîner, on va changer un tout petit peu d'ambiance entre un Far Cry chez les intégristes religieux et ça, c'est pas la même. C'est un jeu édité par Annapurna Interactive qu'on connaît pour Gorogoa, dont on n'a pas parlé ici d'ailleurs, je crois. Gorogoa, on n'en a pas parlé, c'était très bien, vous devriez y jouer. What Remains of Edith Finch, ouais, de l'année dernière, un des jeux les plus importants de l'année 2017. C'est Annapurna Interactive, et ils viennent de sortir donc une petite fiction sur téléphone, enfin sur mobile, sur iOS et Android, et ça s'appelle Florence. Florence qui est donc une histoire d'amour.
D'amour et de désillusion aussi, oui, un petit peu, hein, d'une certaine manière. Donc voilà, le titre est assez clair. Florence, c'est une jeune fille, une jeune femme plutôt, une jeune femme active, hein, qui travaille, qui a un métier de bureau, voilà. Alors dans le jeu, on vous met ça, c'est, il faut relier des nombres entre eux. Bon, je suis pas sûr que ça serve à grand chose dans une entreprise, mais bon, soit. On vous fait comprendre qu'elle bosse beaucoup avec les tableurs Excel et que ça l'enchante pas plus que ça. Mais voilà, elle a une vie un peu morne, un peu grise. On sent que c'est une jeune femme qui aimerait un peu plus de pétillant dans sa vie, et cette jeune femme, donc Florence, dans ce train-train quotidien, cette routine, va faire la connaissance d'un jeune homme qui est à peu près de son âge, on imagine, c'est jamais précisé puisqu'il n'y a pas de texte dans ce jeu, ça ne parle pas, c'est que des symboles ou des petites images ou des mini-jeux, et elle va rencontrer ce jeune homme qui joue, je crois, du violoncelle dans la rue. C'est un artiste de rue, et il joue du violoncelle dans la rue, et elle est attirée un peu comme une abeille est attirée par le pollen. Voilà, on la voit s'envoler un peu au fil des notes, c'est assez poétique.
Ah, c'est plus Far Cry, hein, je suis d'accord, je confirme.
Non, ce n'est plus Far Cry, on est plus, on est plus sur du cinéma en amouré français, ce genre de choses. Mais c'est chouette. Donc elle rencontre ce jeune homme.
On va peut-être pas aller trop loin dans le scénario, parce que.
Je ne vais pas plus loin dans le scénario, mais il faut quand même expliquer que c'est une histoire d'amour avec qui? Bah voilà, donc avec ce jeune homme, et voilà. C'est le début de leur relation amoureuse. Ils vont évoluer dans cette relation amoureuse-là. Et c'est vrai qu'on ne peut pas trop en parler puisque le jeu est très court. Hein. Le jeu dure une heure, même pas 40 minutes. Moi, il m'a fallu un trajet en métro pour le faire. Bon, il faut dire que je travaillais un peu loin de chez moi, mais il m'a quand même fallu un trajet en métro pour le faire. Alors, par contre, c'était chouette. Hein. J'ai passé un très bon moment. Je suis ressorti avec les papillons dans le ventre, le sourire aux lèvres. voilà. Donc, on est face à un jeu très, très dessiné. On est vraiment dans quelque chose qui pourrait s'apparenter à de la ligne claire en BD. Voilà, c'est de la bande dessinée, hein. Vraiment interactif.
Voilà.
C'est ce que on est à la croisée des chemins entre le jeu vidéo, ce que certains auteurs de BD appelaient le turbo-média, je sais pas si vous connaissez.
Oui, bien sûr.
C'est de la BD qui a un petit peu d'animation, ce genre de choses, et la bande dessinée traditionnelle, sauf que là, donc, il n'y a pas de texte, c'est uniquement des symboles, uniquement de la musique, uniquement des interactions minimales à base de tout petits jeux. Voilà, on est en termes de gameplay, hein, on est sur du WarioWare presque, hein. C'est vraiment des mini-jeux genre embriquer deux trucs ensemble, puis on passe deux choses imbriquées. Par exemple, il y a des scènes de dialogue où on parle, et en fait on doit reconstituer des tout petits puzzles qui reconstituent des bulles.
C'est pour moi un des plus grands moments de ce jeu.
Et ce qui est
non, c'est très sincèrement
Alors j'aimerais expliquer quand même ce passage là. Il y a plein d'autres exemples comme ça, donc vous en faites pas. Voilà, mais juste pour vous expliquer comment
il faut
ça
expliquer
fonctionne
ce passage là,
parce que c'est gameplay, important. Ouais. C'est vraiment un moment où le gameplay vient compléter l'histoire, la narration, et c'est moi ce que je préfère dans la narration jeu vidéo. Je me répète toujours quand j'ai l'impression de dire cette phrase tout le temps, mais c'est pas quand le jeu vidéo essaie de ressembler au cinéma qu'il est le meilleur, c'est quand il essaye de justement créer des nouvelles choses avec sa narration, avec son gameplay. Et en l'occurrence, il le fait. Donc, on a cette scène où donc c'est le début de la relation entre ce jeune homme et Florence. Et la discussion, on cherche ses mots, on tâtonne et tout ça. Et donc, les puzzles sont un peu difficiles au début. Et ensuite, on voit des ellipses temporelles. Donc, ils se revoient, et les puzzles sont de plus en plus faciles à faire. Et à la fin, ça sort tout seul. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'ils sont de plus en plus à l'aise l'un avec l'autre. Ils y accrochent de plus en plus. Alors que ça va à l'encontre même
du gameplay,
du
la
gameplay normal, de
la logique
d'un gameplay,
vidéo,
puisqu'il y a ce qu'on appelle la courbe de difficulté,
qui est inversée
de ce qu'on a là. Et on a d'abord ce qui est facile, puis ce qui est difficile. Eh ben non, là on a d'abord ce qui est difficile, puis de plus en plus facile.
Du coup, ça marche bien en tant que joueur, c'est pas
c'est
perturbant.
C'est jamais dur.
Il y a ce moment absolument exceptionnel dans Florence, dans cette scène de dialogue notamment, où effectivement c'est les premiers rendez-vous. Donc en fait, les dialogues, les bulles de dialogue qu'on va reconstituer par puzzle. Alors, compliqué est un grand mot. Hein.
Disons que c'est
4 ou 5 pièces. C'est pas des trucs tout simple, donc il faut reconstituer, ça prend pas longtemps, hein, mais il faut reconstituer sa bulle, et puis la bulle amène le dialogue avec entre le jeune homme et Florence.
Et d'ailleurs tu vois l'ordinateur qui joue le jeune homme qui reconstitue aussi un puzzle en fait, donc ça va dans les deux sens.
Et à un moment, d'accord, donc tu te dis ok, gameplay pour simuler un dialogue, et puis à un moment de manière très presque invisible, on se rend compte, mais c'est devenu plus simple, il y a plus 5 pièces, mais il y en a que 4, et puis il y a plus 4 pièces, il y en a 3. Et puis en fait, t'as pas à réfléchir, mais de quoi veut-il me parler ? Est-ce qu'il y a ça te vient tout seul.
Bah, tu comprends l'autre.
Ah oui, c'est cette simplicité, le fait de plus chercher ses mots, le fait d'avoir une fluidité dans la relation qui s'installe. Et en fait, on est sur une symbolique. Et Dieu sait que je déteste la symbolique. on n'est pas sur la sur-symbolique. On n'est pas sur quelque chose qui est rabâché, un peu tartiné, d'une manière un peu lourdingue. On est sur une sorte
c'est
de...
C'est performatif, hein. Tu ressens
c'est
finesse. Directement
c'est
ça.
En fait,
le...
C'est ça, performatif.
C'est quelque chose. Il y a du symbole et il y a de la finesse. Mais... choses qui sont très compliquées à marier.
Est-ce que vous n'aimez pas tout raconter là? Non, il y a d'autres choses.
Il y a plein d'autres exemples qu'on ne va pas donner.
Il y a plein de séquences.
Là, on a donné ces exemples-là parce que c'est le plus parlant. Quand le dialogue, c'est drôle. Mais du coup, il y a plein d'autres exemples comme ça qui font qu'au fur et à mesure des circonstances, de ce qui se passe dans la vie de ces deux personnes, en fait, les gameplays vont en être.
Et à la fin, ils ne se parlent plus du tout parce qu'ils se comprennent comme ça.
À la fin, ils disent rien. Ils pensent. ça apparaît dans leur tête. Non, mais il y a différentes choses qui se déroulent pendant cette histoire d'amour et en fonction des situations. Donc, on peut imaginer, il y a des hauts et des bas. Et donc, ça va avoir une influence sur différents mini-jeux qu'on va notamment retrouver au fur et à mesure de l'aventure. Il y en a qu'on aura au début et qui auront évolué d'une certaine manière parce que dans la vie de Florence, certaines choses auront changé et donc ça va changer aussi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est exactement ce que tu dis, performatif. Ouais, félicitations. On peut parler peut-être de gameplay performatif. Allons-y, écrivons des livres. Écrivons plein de livres là-dessus. Je suis sûr qu'on les lira dans les universités. Mais du coup, c'est vrai. C'est absolument vrai. C'est-à-dire que plutôt que de nous raconter une histoire via du texte ou via des cinématiques, on nous la raconte via du gameplay. Et ça marche beaucoup, ça marche très bien, parce que ce gameplay-là, en fait, va nous parler à notre cerveau reptilien du fin fond de notre...
C'est intéressant que tu disais, pour toi, le jeu vidéo, il doit raconter à sa manière, avec ses caractéristiques. C'est un peu l'inverse de ce que Barlow a proposé, parce que finalement, Barlow, c'est du cinéma interactif.
Barlow, il explore.
Il
est allé dans un sens avec Her Story et dans l'autre avec Wargames.
On est un peu à l'inverse. Exactement. Dans la performance, on est dans le zapping.
Après, je suis pas un ayatollah de ça, de ce genre de narration, hein, mais je pense que c'est important qu'il y ait cette narration-là qui est, à mon sens, la narration la plus pure qui est possible de faire avec du gameplay.
S'hybride avec la narration.
C'est ça. Allez voir, je sais plus si c'est Karim Debbache qui en parle, mais qui parle de la spécificité du média, qui est grosso modo une théorie de comment un média doit se servir de ce qui est spécifique à lui pour raconter des histoires. Sauf que si tu prends un jeu vidéo, que tu fous des cinématiques avec des sous-titres, du dialogue et des plans de caméra, c'est du cinoche, quoi.
Bien sûr.
Donc là,
il y a du mauvais cinoche en plus.
Voilà, donc c'est bien quand les jeux, justement, se servent des mécaniques de gameplay commencer à comprendre. Il y a une grammaire du jeu vidéo qui se met en place au fur et à mesure des jeux, au fur et à mesure des découvertes.
Puis la place du joueur par rapport à tout ça, c'est ça qui est aussi capital. C'est qu'est-ce qu'on fait, nous, face à l'écran.
Et c'est toujours important. Et là, d'ailleurs, on pourra peut-être en reparler un jour, mais j'ai l'impression qu'au niveau du jeu vidéo, on a beaucoup de jeux vidéo en ce moment qui remettent en cause la question même du joueur dans ce qu'il raconte. Et ça aussi, c'est de la spécificité du média. Alors, des jeux comme Undertale, des jeux comme Doki Doki Literature Club, on n'en a pas parlé, mais ils font ça aussi, avec des jeux qui se ferment eux-mêmes, tiens, le joueur est intégré dans l'histoire de manière pleine et entière, avec des jeux qui sont self-aware, qu'ils sont un jeu vidéo, tu nous fais ça, mais c'est dégueulasse, enfin, ce genre de choses. On est vraiment dans le post-modernisme du jeu vidéo actuellement.
C'est
et
pas
ça
nouveau,
fait plaisir.
Ça, il y avait Little Computer People, déjà, dans les années 80, qui jouait là-dessus aussi, tu vois, sur le côté... Mais...
Jeu vidéo, il rattrape tout en accéléré, puisque c'est des choses qu'on a déjà vécues dans l'art, dans des choses comme ça. Et donc, c'est toujours très intéressant à observer. Florence, il n'est pas du tout dans cette démarche-là. Il raconte une histoire, tout ce qu'il y a de plus, premier degré. Mm-hmm. Mais il utilise les gameplays pour justement enrichir tout ça et raconter des choses. Et par uniquement des mini-jeux, du gameplay.
En faisant ressentir des choses.
Et en faisant ressentir des choses, tu comprends ce qui se passe. Il n'y a pas besoin de mots, il n'y a pas besoin de texte. Alors, c'est un contexte aussi, c'est un contexte urbain. Européen, ça se passait à Londres, je crois, un truc comme
moi
ça.
Moi j'aurais dit San Francisco. Mais
San Francisco bon, dans une ville soit américaine, soit européenne. Moi, il me semblait que c'était Londres, mais j'avais ressenti ça. Bah oui, parce que je crois que c'est des livres sur le tableau. Bref, Excel, il me semble, mais je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, mais non, c'est peut-être des deux là. Quoi qu'il en soit, nous, on le comprend d'autant plus que c'est c'est la vie de tous les jours.
Ah non, Seattle, j'aurais dit Seattle. Je ne sais pas pourquoi.
On découvrira ça plus tard.
Mais il y a un problème de géographie qui est mal contextualisé.
Mais c'est parce que ce n'est pas important au final.
La géographie simili-réaliste n'a pas d'importance.
Ce qui est important, c'est que c'est milieu urbain, dans un pays développé. Dans un avec des trentenaires qui font du l'Instagram, du Twitter, parce qu'il y a des phases où on fait des likes et des retweets sur des photos, ce genre de choses. Et voilà, c'est très moderne. Alors peut-être ça pourra peut-être mal vieillir ce genre de jeu. Hein. C'est pas impossible, mais en tout cas. Il jouait en 2018 jusqu'à encore quelques années, je pense. C'est très intéressant parce qu'on peut que s'identifier à ce personnage-là et donc on n'a pas besoin de mots dans ces cas-là. Et c'est toujours très intéressant. Bref, Florence, c'est très très court par contre. Ça, je vais répéter. Alors, c'est très court.
C'est payant hein, pour le coup, mais c'est moins de 3 euros. Juste pour dire que c'est court, mais comme le temps qu'on lit une bande dessinée en fait. C'est à peu près ça. Donc moi j'ai trouvé que c'était pas forcément démesurément cher pour ce que c'est. Je trouve que c'est très inventif et comme je disais, c'est rare d'avoir une telle finesse. Et en plus que le gameplay va très bien avec le style graphique, notamment. Dernier point, j'avais envie de foutre des baffes au scénariste.
Ah oui, alors le scénario est cousu de fil blanc, pas forcément
c'est
très intéressant.
C'est d'un pénible d'avoir une telle inventivité, une telle finesse dans la construction narrative.
En fait,
et d'avoir un truc tellement caricatural.
Oui, c'est caricatural.
À tellement de points de vue que juste j'avais. Alors, et en plus, on s'en rend compte deux tiers hein, de l'histoire.
Même au début, faites un jeu chez vous. Si vous comptez acheter Florence, franchement, ça vaut le coup d'y jouer. Hein. Faites un jeu. Essayez de deviner, en partant du principe que c'est une histoire d'amour, les différentes étapes de ce qui va se passer.
Mais
C'est vous allez tout deviner. C'est exactement ce qui se passe.
Donc on vient de spoiler toute l'histoire sans la spoiler.
C'est cousu de fil blanc.
J'avais juste envie de
mais t'as raison. J'y ai pensé puis j'ai oublié d'en parler. Mais tu as absolument raison. Et c'est vrai que c'est peut-être le plus gros défaut de ce jeu. Après bon.
Non mais après je trouve ça juste dommage. C'est très agréable.
Tu ressors quand même avec une petite banane.
Tout à fait.
Ça n'a pas de prix.
Allez, on change encore. Allez, on change, on bascule d'univers à chaque fois dans ce nouveau retour de Silence en Joue au format audio. Et on va finir avec une mais édité par Devolver Digital. Je le précise à chaque fois parce que ça catégorise finalement aussi un certain type de jeu indé. C'est un label Devolver Digital qui édite Minute. Minute, Minute, j'étais pas prêt, ça. J'étais pas prêt, Minute. Minute, pour tout vous dire, j'avais pas forcément suivi. Le design me disait quelque chose. J'avais dû lire quelques petits trucs dessus. Et puis, c'est toi en disant « Je vais parler de Minute dans Silence pour jeu. » Je me dis « Bon, il va falloir peut-être que je regarde ce qu'est Minute. » J'étais pas prêt.
Minute, alors... Minute, Minitel. Non,
c'est comme une minute, en fait. Ouais.
Voilà. Alors, ce qui est drôle, c'est... Calme-toi, Patrick.
Non, ça aurait pu être un clin d'œil.
Alors, full disclosure, hier, je finissais ma deuxième run de Minute, puisque c'est un jeu qu'on vous invite à refaire une fois que vous l'avez terminé, dans un mode un peu plus difficile, donc je voulais aussi le mode difficile. Et je vois Erwan qui joue à Minute sur Steam, et au bout de, je sais pas, très peu de temps, Slay the Spire. Bon, très bien.
Ah,
il a laissé tomber. Mais bon, je peux comprendre. Alors, Minute, c'est un jeu qui est fait par un collectif de créateurs, donc il y a du beau monde. Hein. Il y a Jan Willem Nyman, qui est la moitié de. Comment ça s'appelle Vlambeer, donc Nuclear Throne, tout ça. Donc pas la moitié d'un mec qui sait pas ce qu'il fait. Dominique Johan, qui est chez Crows. Alors, c'est des expériences narratives assez intéressantes. Puis il y avait le Grand Temple de No, ou The Great Temple of No, je crois que ça s'appelait comme ça, où c'est une histoire racontée, tu fais des choix, et musicalement, ça change en fonction des choix que tu faisais. C'était vraiment chouette, et c'est gratuit sur Internet, allez voir. C'est vraiment des expériences interactives et narratives qui sont chouettes. Kitty Callis, qui a bossé sur Horizon Zero Dawn, je crois qu'elle s'occupe des graphismes.
Elle a eu quand même une grande différence niveau graphisme, là.
Et surtout, elle est toute seule maintenant, la meuf. La meuf sort d'une...
La différence de graphique peut.
Il me semble que c'est graphique. J'ai peur de dire une bêtise. Ouais, me semble bien.
Ça fait quand même un grand écart.
Ah, attends, entre tout seul et une équipe de 40 graphistes,
c'est pas la même.
Et Juko Kallio qui s'occupait des sons. Alors lui, par contre, il n'a pas plus de références que ça. Enfin, en tout cas, j'en ai pas trouvé. Il a peut-être un background que je ne connais pas. Bref, donc c'est plus un collectif, un all-star de la scène indé, jeux vidéo, machin. Et ils ont décidé de nous faire un jeu vu du dessus à la Zelda. À l'ancienne, classique, hein, donc un petit personnage avec son épée qui fait fric, comme ça paraît devant lui et il donne un coup d'épée, tout en noir et blanc. Et on va dire que le twist gameplay de ce jeu.
Juste préciser, noir et blanc, c'est bichromie. Hein.
Oui, c'est noir et blanc.
Alors, voilà. Bichromie, pour les connaisseurs, moi je l'ai vraiment situé ZX Spectrum. En termes de. Il a un vrai cachet ZX Spectrum avec ses sprites, etc. Enfin, vraiment, je pense que c'est clin d'œil.
C'est pas niveau de gris, c'est noir et blanc.
C'est noir ou blanc.
Voilà, c'est noir.
Enfin, en tout cas, voilà, il a un vrai Roland années 80, visuellement, qui fait chaud au cœur. Enfin,
c'est plaisir. Patrick.
Et donc, le twist de ce jeu-là, vous êtes un petit personnage, une espèce de canard, un petit peu.
Parce qu'au début, on part, on est tout content.
Ouais, c'est l'aventure.
C'est l'aventure.
Ah, c'est longues épopées. Oui, c'est longues épopées. Tu vas voir. Tu trouves une épée au bord de la plage. C'est très Link's Awakening. Hein,
on
trouve une épée sur la plage.
J'ai pas vu, moi, au début, le compteur. J'ai pas fait gaffe.
C'est vrai.
Je suis parti bille en tête et me promener.
Qu'est-ce qui se passe?
Et là, mais c'est passé quoi? Il y a un bug?
On m'a tué. Parce qu'il n'y a pas de compteur tant que t'as pas récupéré l'épée. Hein.
Ah, bah c'était pour ça.
Il n'y a pas de compteur. Tu récupères l'épée. Alors,
l'épée est maudite.
Ce qui fait que vous
mourrez systématiquement au bout d'une minute de jeu.
Ah, c'est génial.
C'est trop. Bah, c'est con.
Ça paraît anodin.
J'étais pas prêt. Après, j'étais tellement pas prêt.
Chaque seconde compte.
Ah après. Oui.
Mais vraiment, tu tires chaque seconde. La délicence de chaque seconde, tu la tires au maximum. Enfin,
alors, évidemment, tout le gameplay est tourné autour de ça. Donc, on vous balance pas dans un open world immense sans on va dire.
T'imagines le truc sur Far Cry 5
sans relais.
T'es largué à l'hélico, t'as une minute. Tu peux
aller quoi. T'es mal.
Mais on a cette notion de 60 secondes et c'est tout. Et donc, évidemment, il y a des éléments qui vont rester d'une mort à l'autre. Alors, quand vous mourrez, vous retournez à chez vous, donc à votre lit. Mais si vous avez trouvé, je ne sais pas, on va vous donner un exemple au début.
Une caravane.
Voilà, en fait, il y a des maisons dans lesquelles on peut se reposer. En fait, c'est votre nouvelle maison. Donc, si vous mourrez, vous réatterrissez dans votre nouvelle maison. Voilà, et vous récupérez 60 secondes.
Et là, on se dit ouf.
Le monde est à la fois réinitialisé et pas réinitialisé, c'est-à-dire que les monstres réapparaissent, les blocs que vous avez bougés se remettent à leur place, les herbes que vous avez coupées repoussent, et par contre, tous les objets que vous avez obtenus...
Les actions aussi avec les autres personnages sont
certaines
enregistrées.
Certaines interactions. Reste. Mais gardez en tête, la règle, c'est que vous avez obtenu un objet, vous le gardez, a priori.
Mais on n'y attend plus après.
Vous
n'y
retournez
plus. Besoin.
Ce qui fait qu'en fait, des zones du jeu vont se débloquer au fur et à mesure. Alors, je vais prendre le premier exemple, puis j'irai pas plus loin pour vous laisser un petit peu à surprise, parce que le jeu est un peu court. Vous réussissez une mission que le barman du coin vous donne. Il y a une petite auberge, un petit café au bord de la plage qui vous donne une mission à faire. Vous faites cette mission, en l'occurrence tuer des crabes, et vous revenez et il vous donne un café. Ah, vous avez le pouvoir du café, super. C'est vrai que je l'ai tous les matins, je peux pousser des caisses. Voilà, bon. Donc, grâce à ça, on peut pousser des caisses. Et donc, voilà, en fait, on débloque des capacités, comme dans tout bon Zelda en 2D vu du dessus, ou même Metroid-like. Hein, capacité débloquée veut dire nouvelle zone à explorer, nouvelles énigmes à résoudre.
Retourner sur ses pas pour ouvrir des trucs qui étaient
exactement. Et du coup, on a une notion comme ça de micro-aventure à pallier, comme ça. Ce qui fait qu'en fait, le fait d'obtenir un nouveau, une nouvelle capacité, ça va permettre de découvrir la zone en plus, qui va te permettre de découvrir un nouvel objet, qui va te permettre de découvrir la zone en plus, sachant qu'à chaque fois vous revenez au début, c'est insupportable.
Mais il y a à côté une sorte de variation sur le Metroidvania, en fait.
Ah oui, bah,
c'est ça,
avec du
Zelda, hein, même.
Oui, voilà,
Zelda, c'est un mix des deux, en fait, finalement, ouais. Hein, avec ses capacités.
Pas vraiment, parce
mais
que.
C'est marrant, parce qu'on parle beaucoup de Zelda, et c'est vrai que le jeu emprunte énormément au premier Zelda, notamment. En revanche, moi, je me rappelle jouer aux Zelda de façon assez sereine, mais là, c'est vrai qu'on a un stress continu avec ce temps. Ça donne un rush dans la façon d'appréhender, même surtout l'exploration géographique. Je reviens un peu comme Far Cry, même si c'est un autre combat, mais c'est aussi un jeu de géographie parce qu'on passe son temps à aller explorer sur ces 60 secondes. On pousse le plus loin possible à aller voir jusqu'où on peut atteindre, etc.
C'est ça. Et des fois, du coup, en fait, moi, je m'attendais à un jeu du type Half Minute Hero. Je sais pas si vous vous rappelez de ce jeu, c'était sur Vita, PC, tout ça. Et c'est un jeu où vous aviez 30 secondes pour sauver le monde. Voilà. C'était littéralement le but du jeu. Sauf que le twist, c'était pas que vous aviez des actions et vous deviez débloquer de l'espace, en fait. Parce que c'est ce qui se passe dans Minute, c'est que vous débloquez de l'espace, des zones à explorer, des capacités. Dans Half Minute Hero, vous deviez prier une déesse du temps pour gagner du temps, en fait. Vous reveniez au début de vos 30 secondes. C'est très drôle, vous avez le soleil, que c'était votre compteur de temps, c'était avec un énorme compteur de temps au milieu qui clignotait, qui était stressant. Mais vous deviez gagner du temps, vous deviez récupérer du temps. Dans Minute, non, vous devez gagner de la distance à parcourir, en fait. Et donc, au fur et à mesure du jeu, vous allez débloquer des capacités qui vont aussi pas vous permettre de gagner du temps, parce que vous ne gagnerez jamais de temps.
Actions,
voilà, c'est méga certaines
arme
actions
qui permet de taper plus loin.
Voilà, admettons, vous avez gagné le pouvoir d'enlever des troncs d'arbres. Et le tronc d'arbre, en fait, c'est un tronc d'arbre qui bloquait le chemin entre votre maison et la zone 2, en fait. Enfin, la zone un peu plus loin. Ouais. Et en fait, vous gagnez vraiment du temps au fur et à mesure, mais en vous déplaçant plus vite, en déplaçant des objets.
On gagne de l'espace, oui.
Voilà, on gagne de l'espace. Et ça, je trouve ça vraiment malin, parce qu'il y a une notion vraiment un petit peu, tiens, on va prendre le problème à l'envers, parce que moi je m'attendais à genre, ah oui, je vais récupérer 30 secondes là.
Ça, c'est plutôt Dark Souls. Non, mais c'est vrai. Les raccourcis de Dark Souls, où en fait le monde qui paraît immense au début, avec les raccourcis qu'on arrive à se créer, se replie et on finit par l'intégrer totalement, intérieurement à partir du point de départ.
C'est la force de ce jeu. En fait, c'est qu'il marie une forme très, comme je disais, ZX Spectrum. C'est-à-dire quand on lance, on se dit bon, je suis très C64 Mini en ce moment. Je me refais un peu les jeux qui sont très durs, qui sont très très clivant pour le joueur, qui sont là justement on dit ah bah tiens, je vais être sur un gameplay Spectrum, ça va être un peu raide, un peu et en fait il a une forme très années 80 dans ce moi j'adore parce qu'il a on retrouve ce surréalisme des jeux sur Spectrum avec un mélange de fantaisie, de réalisme, avec des clins d'œil dans tous les sens. Sur quelques pixels, on arrive à créer un monde entier. Ça, je trouve que ce jeu, il arrive vraiment à capter ça. C'était quelque chose qu'on avait vraiment sur les Spectrums, sur les Amstrad. En quelques pixels, on crée un monde. Et ça, ce jeu, il le réussit.
Ça se voit beaucoup, notamment sur le chara-design des personnages qui
sont
adorables,
fabuleux,
quoi.
Mais oui, mais ils sont super attachants.
Avec
alors
trois pixels, deux couleurs, ils font ces personnages incroyables.
Ça, tu avais ça dans les Jet Set Willy ou des jeux comme ça des années 80. On avait ça. On avait du cœur dans ces jeux. On s'attachait aux personnages et aux univers. Donc on a cette forme qui est plutôt trompeuse, on prend un peu le jeu de haut en se disant ouais bon ok c'est... Mais non, je trouve que ce qui est fort c'est qu'il est, pour moi il est très ancré dans les années 80 dans son look, mais dans le fond c'est un jeu d'aujourd'hui,
c'est un jeu moderne,
c'est un jeu qui a avalé toute la, comme tu disais, les influences de Zelda, de Dark Souls, c'est un jeu d'aujourd'hui.
C'est beau, je trouve que c'est beau ce qu'on a en ce moment, hein, avec des jeux comme Celeste, avec des jeux comme Minute et tout ça, c'est sur le côté forme, forme un peu rétro et alors gameplay c'est ultra moderne.
C'est des jeux qu'on n'aurait jamais eu à l'époque. Il faut pas se leurrer. Enfin, c'était très difficile de faire des jeux avec une telle richesse de parce qu'il est très riche.
Ouais, complètement.
Moi, au début, je l'ai lancé. Je me suis dit, bon, il y a peut-être un écran ou deux. Comme ça me rappelle mes premiers jeux sur Amstrad où j'étais surpris de voir qu'il y avait parfois plusieurs cases, plusieurs écrans sur un jeu. Bah là, c'est pareil. On se lance, mais on se rend compte que finalement la carte est pas si petite que ça. Que le jeu va être plus long que ce qu'on pense au début. En fait, il a de l'ampleur ce jeu. Il a du cœur, je trouve. Il a quelque chose.
Il est pas hyper long.
Mais moi, j'ai vécu des aventures dans ce jeu. Je pourrais presque refaire un film avec une aventure que j'ai vécue avec quelques pixels. Ça m'a rappelé des super souvenirs.
Oui, donc on disait, il est quand même pas très long.
J'ai un peu séché sur des objets, des trucs.
J'ai mis 1h15 pour finir la première run et peut-être 1h30 pour finir la deuxième run. Parce qu'en fait, ce qui est très intelligent, c'est qu'il y a un New Game Plus qui débloque, donc en plus dur. Surtout, il change la place des objets. Et du coup, en fait, c'est une autre aventure. Il faut réfléchir autrement. On chope pas les objets dans le même ordre et tout. Bah, du coup, tu redécouvres. En fait, c'est la même lecture, la même map, mais du coup, tu dois la parcourir différemment pour arriver à tes mêmes fins, sachant que certaines capacités s'entremêlent et tout. Donc, c'est intéressant. Après, il est court. Hein, voilà, ça reste assez court.
Ouais, relativement. Enfin,
Surtout, on parlait de modernité de gameplay et tout ça. Il est pas très moderne sur
l'interface.
T'indiquer vers où faut aller ensuite.
Ah oui, mais ça, justement, c'est le côté un peu.
Ouais, je sais. Alors, ça va que tu dis que le monde est vaste. Le monde n'est pas si vaste. T'as que 3 ou 4 chemins à explorer, on va dire, pour te dire bon, là, ça a pas marché, il y a rien à faire.
On parle plus dans l'aventure.
Bien sûr.
Bah, c'est l'aventure que j'ai vécue qui m'a fait rêver.
Mais il y a quand même des moments où tu fais bon, et maintenant, qu'est-ce que je fais, quoi.
Ça, par contre, c'est sûr.
Il y a des vrais moments.
Ça m'est arrivé plusieurs fois.
Où t'es là, tu fais je ne sais pas.
T'as cette petite lumière que
non, alors justement, il y a des moments où j'ai pas le déclic. C'est juste, je passe sur un truc, je tente un truc au pif et ça marche et je suis en mode tu vois ce que je veux dire.
Moi, j'ai l'impression que ce genre de moment est intégré. Pourquoi j'ai cette impression-là ? C'est parce que les moments où t'as rien à faire, mais tu n'as toujours qu'une putain de minute de vie.
Bah, tu zones.
Tu
vas faire un tour.
C'est une sorte d'ennui dans le stress ou de stress dans l'ennui.
Tu t'appropries la géographie.
Tu dis, mais je sais pas quoi faire, mais j'ai pas le droit de pas savoir quoi faire. J'ai une minute.
Et t'as la touche suicide aussi.
Très bonne, parce qu'en général, quand vous avez fini ce que vous aviez à faire, genre vous avez récupéré votre objet, suicide, bam, tu retournes au début. Mais oui, c'est vrai que c'est assez étonnant.
Il y a tous les clichés, même des jeux des années 80. Je parlais de Caves of Doom ou des jeux que j'ai fait à l'époque où t'as ce monstre dans une cave qui te court dessus, un gros monstre qui est super dangereux. Et il y a ça aussi. Ouais. C'est vraiment des clichés de l'époque. Encore une fois, qui a assimilé quand même 30 ans d'évolution.
Bon, c'est assez fun et réfléchi, et c'est une idée marrante. Voilà.
Bon, j'ai l'impression que pour ce premier retour à l'audio, on a profité du fait qu'on en était plus dans une grille télé pour quelque peu déborder de notre cadre habituel. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave, mais on va terminer là-dessus sur Minit. Donc, c'est à télécharger donc, sur PC et sur console.
C'est un peu partout, ouais. Je sais plus.
Un peu partout, en PC, console.
PC, sûr,
Et je ne sais pas, absolument pas le prix. Mais
10€.
Oui, je crois que c'est 10 euros. Ouais. Je crois me souvenir que c'était une dizaine d'euros. Tout à fait. Eh bien, merci. Merci à vous deux pour ce bon moment. Merci encore. Je vais le répéter à chaque fois. Au croissant, vous pouvez vous abonner pour regarder à quoi ça ressemble. C'est toujours un projet un peu foufou, mais très intéressant de Corentin et Stan et de tous leurs chroniqueurs et journalistes. On va finir avec la question rituelle à laquelle vous ne pouvez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Patrick ?
Je me fais un petit cycle cinéma. Film catastrophe, c'était une grande mode dans les années 70, donc je regarde des films catastrophiques de l'époque. J'ai regardé récemment Avalanche, un nanar de 78 avec Rock Hudson. Pourtant j'adore Rock Hudson, mais là c'est très mauvais, c'est une production Corman et c'est vraiment un très mauvais. Pourtant voilà, Rock Hudson il est pas bien dedans, Avalanche très mauvais, mais il s'inscrit dans toute cette filière. C'était une grande mode en fait à l'époque, tu prenais des acteurs un peu en fin de course, alors où ils faisaient un épisode de La Croisière s'amuse, où ils venaient faire un film catastrophe, et après j'enchaînais sur Tremblement de Terre et Météor avec Sean Connery aussi. C'est des grands films de l'époque, de cette grande vague de films catastrophes qui sont rigolos à voir aujourd'hui avec le recul. Voilà.
Corentin.
Alors, c'est pas parce qu'on est plus sur nos lives qu'on va pas arrêter de parler d'animés. Sur Netflix, il y a.
Mais là, on se fera pas bloquer nos vidéos ça. YouTube à cause de droits d'auteur, de tes trucs là.
Non, là, c'était Netflix, donc je pense qu'ils nous auraient laissé tranquille. Les Enfants de la Baleine, c'est sur Netflix. Donc, c'est récent, là, c'est sorti en mars. C'est 12 épisodes d'un manga d'Abi Umeda qui raconte l'histoire. Alors, c'est un monde. C'est pas vraiment de la SF, c'est pas vraiment de la fantasy, c'est un peu à mi-chemin. On est sur une mer couvert de sable, en fait, un peu, mais pas sur du sable sur lequel vous pouvez marcher, hein, c'est du sable, vous coulez hein, si vous êtes dessus. Et il y a une île comme ça qui s'appelle la Baleine de Glaise qui vogue sur cette mer de sable. Et sur cette mer de sable habitent deux types de personnes. Il y a les marqués et les non marqués. Les non marqués sont des êtres humains normaux qui n'ont pas de pouvoir magique. Les marqués ont des pouvoirs magiques, mais ils ne vivent en général que 30 ans. Et donc voilà, on part de ce postulat-là. Ils ont tout plein de traditions et tout ça. Et un beau jour, ils vont régulièrement sur des îles qui croisent comme ça, et ils trouvent une jeune fille sur cette île qu'ils ramènent, et à partir de là, les ennuis commencent, puisque apparemment il y a d'autres gens dans ce monde et pas que des gens qui leur veulent du bien. Alors d'un point de vue graphique, c'est magnifique. Il y a une espèce de patte hallucinante. On a l'impression que c'est dessiné, genre chaque plan est gravé, je sais pas, sur du sable ou je sais pas quoi. Enfin, c'est très joli. Il y a une espèce de texture comme ça qui tout est en glaise, en sable, et il y a un grain justement un petit peu rugueux. On pourrait presque toucher notre écran et se dire ah ça a fait crrr, crrr, tu vois. Et du coup, c'est vraiment chouette. Des très jolies musiques, des bons doublages, mais ça on a l'habitude avec l'animation japonaise. Le souci c'est que on sent qu'il y aura pas de qu'il y aura pas de saison 2.
Ah ouais.
Et on sent aussi que et on sent que c'est un animé qui a été fait uniquement pour vendre le manga, et moi ça m'embête un peu parce que j'étais en mode ah super, j'ai envie d'une belle aventure et tout, des épisodes, j'espère que ça va boucler. Oui, ça se boucle en effet, sauf que les trois derniers c'est limite des épisodes où ils ont essayé de mettre tout ce qu'ils pouvaient du manga pour vous dire ouais. la suite c'est dans le manga, allez lire le manga. Donc je suis un peu triste. Et alors, par contre, attention, ça a l'air tout mignon, tout sympa, c'est violent, c'est très violent, donc attention. ne faites pas regarder vos enfants, c'est aussi violent que pourrait l'être un Made in Abyss pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire qu'au début c'est tout mignon, tout sympa, puis à la fin il y a du sang, beaucoup de sang, donc faites attention. Mais voilà, je sais pas si je recommande. Si vous avez du temps, regardez-le, parce que c'est un vrai petit truc, et qui sait, ça vous donnera peut-être envie de lire le manga. Voilà.
Alors moi je lis pas mal de trucs en ce moment. Alors je voulais en parler d'un autre, mais j'en parlerai sans doute la semaine prochaine. Là je suis tombé un peu dessus par hasard parce que j'enquête un peu sur le phénomène en ce moment, c'est le phénomène des foules.
La terre plate. Ah
non, des foules haineuses sur internet, des phénomènes d'entraînement de foules, d'harcèlement par les foules, etc. Et en fait j'étais en train de commencer là-dessus, à bosser là-dessus. Enfin j'avais commencé depuis longtemps et je me suis rendu compte qu'un livre venait d'être publié en février 2018, en tout cas traduit en français. Livre de John Ronson qui s'appelle La honte. En titre en anglais, c'est You've been publicly shamed.
Ah oui, c'est
une bonne ambiance. Et donc, en fait, c'est quelqu'un qui s'intéresse à ses victimes, à des gens qui ont été un peu mis au banc par des campagnes assez brutales sur Twitter. Notamment, il y a Justin Sacco. Alors, Justin Sacco, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était l'été 2013, je crois, avec cette femme qui prend l'avion de Londres. Ouais. Et qui tweet, il prend l'avion pour l'Afrique du Sud.
Ouais,
et elle tweet un truc, je vais en Afrique, j'espère que je ne vais pas choper le sida.
Un truc genre, ouais.
Non, je rigole, je suis blanche.
Et en fait, c'est tellement chaud, putain.
C'était chaud, mais alors aujourd'hui quand on dit ça, voilà, c'était aussi, on pouvait le lire comme une sorte de critique de voilà, pourquoi est-ce qu'il y a que les noirs qui, les noirs,
ah oui, ça pouvait être ironique, ironique pas très fine,
mais il y a pas que ça, parce que le tweet il a été fait dans des circonstances particulières, et c'est ça que t'allais arriver.
Alors pour l'histoire, elle avait 170 followers sur Twitter, ouais. Et le tweet pendant 3 heures n'a eu zéro retweet, zéro like, jusqu'au moment où il a été partagé à un des rédacteurs de Gawker, donc site un peu majeur en tout cas à l'époque, qui est mort aujourd'hui,
tué par
qui avait une énorme communauté, et par un mec qui avait 150 000 followers sur Twitter,
et là, les feux de l'enfer
ça a devenu n'importe quoi, c'est à dire que la meuf, bon, on va pas faire une émission là-dessus, mais grosso modo la meuf a atterri 11 heures plus tard, elle était virée de son travail.
Oh,
et quand elle a rallumé son téléphone, elle n'avait rien suivi. Elle avait éteint son téléphone dans les airs. Et il y a Donald Trump qui a tweeté sur elle, parce qu'en fait, il y a un hashtag qui est arrivé tendance sur Twitter. Ouais, c'était Has Justin Sacco landed yet?
Parce qu'elle était en mode avion. Enfin, elle était dans l'avion.
Tout le monde s'est rendu compte qu'elle était en avion. Elle ne savait pas ce qui se passait. Et le top trend mondial, c'était Has Justin landed yet? Est-ce que Justin a atterri? Et tout le monde a tweeté dessus. Il y a eu 1,2 million de tweets sur Justin Sacco en 12 heures.
Donc là, c'est vraiment un phénomène de foule. C'est un phénomène d'emballement.
Et donc, John Ronson a été le seul à rencontrer Justin Sacco qui parle dans... John Ronson qui
elle
parle dans
le...
Dans
depuis,
le...
Non,
elle n'a pas changé de nom. Elle a perdu son travail. Et en fait, il y a d'autres cas. Et en fait, il s'interroge aussi sur ces foules. Pourquoi est-ce qu'on en fait partie aussi? Pourquoi est-ce qu'on a un sentiment de justicier qu'on peut participer parce que quand c'est des fois c'est des méchants qui ont fait des conneries, donc on va dire
c'est une catharsis par les réseaux.
Et donc en fait ils s'interrogent sur ce phénomène là de foule, sur le fait d'humilier, l'humiliation publique et le retour de l'humiliation publique en fait, mais par les foules. Et donc c'est un phénomène très intéressant. C'est écrit un peu à la manière des enquêtes américaines,
incarné
exactement, très incarné, et ça se lit très bien. C'est disponible en français donc depuis février aux éditions Sonnet.
Dans The Black Mirror aussi, il y a 2-3 épisodes qui évoquent
C'est là où ils ont le hashtag qui tue.
C'est ça. Voilà, c'est fini pour ce retour de Silence on Joue en audio. On se retrouve, je pense, si tout se passe bien, la semaine prochaine. Et merci encore à vous deux, et merci encore au croissant, et à la semaine prochaine. Ciao.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.